Bonjour à tous. Merci à cette, de votre présence à cette table ronde intitulée « Quand les réalités biologiques dépassent le bestiaire de l'imaginaire ». Alors, je ne sais pas si on va faire un match entre l'imaginaire et la réalité. Mais en tout cas, on va bien s'amuser parce qu'on va, on va se promener dans l'imagination de bestioles les plus loufoques les unes que les autres. Alors, le bestiaire de l'imaginaire, ça commence déjà avec les chimères, avec les licornes. Et évidemment, la science-fiction s'est emparée de cet imaginaire, soit en se projetant dans l'avenir sur la Terre et en imaginant ce que deviendraient les êtres vivants d'aujourd'hui, soit, évidemment, en se projetant dans d'autres lieux, dans d'autres espaces, sur d'autres planètes, pour imaginer d'autres bestioles. Alors, pour discuter de tout ça avec nous, nous avons, je vais essayer de prendre dans l'ordre, en commençant par Sylvie, allez, honneur aux dames. Sylvie Néné est écrivain, et ce qui va nous intéresser le plus peut-être dans cette table ronde, c'est l'Opéra de Chaïa, paru en 2014 chez Actu SF, qui a reçu le Grand Prix de l'Imaginaire en 2015. À côté de Sylvie se trouve Jean-Sébastien Steyer, qui est paléontologue, et du coup il nous fera voyager dans le temps, dans le passé de la Terre et dans le futur aussi, puisque Jean-Sébastien Steyer a commis avec Marc Boulet un ouvrage qui s'appelle « Les animaux du futur » et qui sont exposés ici même, dans cette allée, où on regarde ce que pourraient devenir les animaux terrestres dans 10 millions d'années. À côté de Jean-Sébastien se trouve Jérôme Noirez, qui est écrivain de SF, mais pas que, de fantastique. Et Jérôme Noirez a la bonté aussi de proposer à la jeunesse des livres complètement imaginaires, qui débrident leur imaginaire, je dirais. Et je crois qu'on ira pas mal sur la série Zoo Cosmique, où là, on rencontrera quelques créatures étonnantes. À côté de Jérôme se trouve Fred Blanchard. Fred Blanchard, qui est illustrateur, graphiste, scénariste, qui est directeur de la collection Série B, dont on fête les 20 ans et que vous pourrez, que vous pouvez et que vous avez déjà peut-être visité, avec de superbes planches. Donc Série B aux éditions Delcourt. Et Fred Blanchard est un pourvoyeur aussi de créatures, puisqu'il a travaillé sur des albums de Star Wars chez Dark Horse, puis Delcourt. Tao Bang, Karmatronics, enfin, il pourra nous raconter des choses sur ce plan-là. Et puis, juste à côté de moi, se trouve Laurent Genefort, qui est écrivain. Alors là, on ne pourrait pas citer toute la production de Laurent Genefort, mais c'est aussi un pourvoyeur de créatures, notamment avec Point Chaud et Alien Mode d'Emploi, deux ouvrages parus aux éditions Le Bélial. Et cette année, toujours chez Le Bélial, Lumen. Alors, messieurs, dames, ma première question que je pose à tous, c'est quelle est votre créature préférée ? Laurent Genefort.
Je me lance.
Allez.
Moi, c'est le ver des sables de Dune. Voilà. Parce que c'est la première créature qui n'était pas décrite uniquement en soi, mais dans un écosystème, dans un vrai écosystème. Et donc, elle faisait partie d'un plus seulement d'un décor, mais d'un environnement, en fait. Donc, c'était assez révolutionnaire.
Qui se lance, Fred ou Blanchard ?
Moi, c'est Manchu. Non, je rigole. Il est là. Moi, c'est étant quelqu'un qui évolue plutôt dans le monde de l'image. Ça va être la créature d'Alien, de Giger. Alors pourquoi ? Parce que quand on essaie d'imaginer des créatures autres, des extraterrestres, ou revenir dans le passé avec la paléontologie, je me dis qu'on a quand même toutes les chances de taper à côté dans la plupart des cas. Et ce que j'aime bien dans la créature d'Alien, c'est que c'est une créature artistique. Giger était un héritier de tous les artistes de l'art nouveau. Et il n'a pas tout inventé lui-même. Il est vraiment l'ultime descendant d'une tradition d'artistes et de plusieurs courants artistiques qui ont mené de l'art nouveau jusqu'à l'art industriel. Et la créature qu'il a créée pour le film de Ridley Scott est vraiment un hybride de plusieurs courants artistiques. Et c'est, à ma connaissance, une des seules créatures qui soit, avant d'être un monstre, qui soit une œuvre d'art.
Jérôme Noirez.
Bah, j'aurais choisi Alien aussi, mais trop tard, voilà.
C'est le risque.
Je savais qu'on me le volerait celui-là.
C'est pour ça que j'ai pris la parole en premier.
Alors finalement, quitte à ne pas choisir Alien, je vais choisir Totoro, parce que c'est une créature à qui on peut faire des gros câlins. Et c'est utile aussi. Alien, on ne peut pas lui faire de gros câlins, mais Totoro,
ah non, c'est
oui.
C'est pas recommandé.
Voilà. Alors c'est pas une altérité flagrante, évidemment, Totoro, parce que c'est une grosse peluche, mais c'est une peluche qui touche à la divinité quand même. C'est une espèce de divinité, une divinité à qui on peut faire des gros câlins. Dans les religions, il y en a pas beaucoup en fait. Donc je vais choisir Totoro ou le Blob.
Si je peux rebondir sur ce que tu dis, c'est vrai que c'est une divinité, ça vient de l'animisme aussi, et c'est une divinité écologique en plus. Donc elle a cette dimension-là qui est vraiment, au lieu de balancer des baffes à la mère nature, on peut lui faire des gros câlins et revenir vers elle.
Absolument, absolument. Et on imagine un crossover passionnant entre Alien et Totoro.
Alors j'allais dire aussi Alien parce que, effectivement, c'est une œuvre d'art avant d'être un organisme terrifique. Et quand on fait un petit peu d'anatomie comparée avec Alien, on se rend compte que c'est un concentré de tout ce qui est dégueulasse dans la biodiversité actuelle et passée, en fait, non seulement au niveau de son mode de reproduction, qui est ectoparasitoïde, ensuite endoparasitoïde, mais aussi au niveau de sa morphologie. Il a un sang aussi très corrosif quand ça sort, en tout cas, des vaisseaux sanguins. Dans certaines versions du film, il n'a pas d'yeux, ce qui renforce son caractère de super prédateur, parce qu'il est très bien capable de vous détecter là où vous vous cachez. Bon, Alien étant occupé plusieurs fois... mais bon, vous allez dire que ça, c'est facile en tant que paléontologue. J'aime bien les banshees qu'on voit dans Avatar parce qu'ils évoquent clairement les ptérosaures avec quelques mélanges aussi, plus insectoïdes aussi. Mais j'aime bien aussi les kaijus en général. Là aussi, c'est une déformation professionnelle parce qu'on pense tous à Godzilla. Mais les kaijus d'El Toro dans Pacific Rim sont assez sympathiques, même s'ils ne sont pas le résultat d'un processus de sélection naturelle, puisque ce sont des espèces de monstres génétiquement modifiés et hyper spécialisés pour le combat, donc avec des apparats de super prédateurs un peu too much, certes, mais on est dans la culture aussi japonaise. Et voilà. Donc finalement, j'ai plusieurs préférés.
C'est autorisé. Sylvie ?
Ben, moi, j'allais dire le ver des sables d'Arrakis, de Dune. Mais on resterait à 2-3, donc de toute façon, on a perdu. Donc, alors, tant qu'à faire, et comme j'ai une très mauvaise mémoire des noms et qu'ils ont en général des noms bizarres, je me suis beaucoup amusée avec des créatures que j'ai inventées. Juste, j'ai raconté les grocs, qui sont des espèces de grosses vaches roses qui vivent sur le bord des rivières. Et elles sont tellement lourdes qu'elles ne peuvent pas avoir de pattes parce que leur poids... les écraserait au sol. Donc elles roulent sur elles-mêmes et de temps en temps elles s'accrochent au bord de la rivière sur une grosse ventouse, mais quand elles se retournent, la ventouse est en l'air, donc ça fait comme un espèce de grand lit dans lequel on peut imaginer de s'allonger, et en plus elles vivent en symbiose avec des drôles de bêtes, donc voilà, on peut s'amuser beaucoup en inventant des trucs.
Alors c'est intéressant ce que vous racontez, c'est aussi ce que disait Laurent Genefort, c'est une créature, finalement, elle existe au milieu d'un écosystème, de son milieu, sur une planète. Et il y a des contraintes qui imposent la forme de cette bête et la manière dont elle va vivre et du coup le look qu'elle va avoir. Sébastien Seyer, vous êtes auteur d'une rubrique dans la Revue pour la Science avec Roland Lehoucq qui visite un peu les univers de science-fiction, et là-dessus, vous vous êtes prêté au jeu d'imaginer sur telle planète, est-ce que c'est plausible d'avoir telle ou telle créature. Alors vous avez regardé ça dans le monde de Star Wars et dans le monde d'Avatar. Vous pouvez nous dire un petit peu quel type de critères vous trouvez, de contraintes sur les êtres vivants?
Alors, c'est vrai qu'une créature imaginaire devient plausible quand elle est en phase, finalement, dans son environnement, et ce qui implique qu'on ne peut pas faire forcément n'importe quoi en fonction des conditions qu'on s'impose ou pas. Des conditions planétologiques d'abord, des conditions géologiques ensuite, qui vont avec le climat former des écosystèmes, et finalement une créature imaginaire elle devient plausible parce que elle fait partie d'un maillon, d'une chaîne écologique ou d'une chaîne trophique. Elle a ses prédateurs, elle a ses proies, elle a ses parasites, elle a ses organismes symbiotiques aussi. Et c'est ce qu'on s'est amusé à faire avec Roland Lehoucq, lui pour tout ce qui est côté physique, moi pour tout ce qui est sciences naturelles. Et on peut décortiquer comme ça, par exemple, le bestiaire d'Avatar ou de Star Wars, qui sont deux bestiaires très riches, comme c'est souvent le cas dans les space opéras ou les planètes opéras. Et on peut trouver beaucoup de choses à dire. Avatar, par exemple, la marque de fabrique qu'a donné en fait Cameron, ou plutôt ces créatures designers, parce que toutes ces créatures dans le monde cinématographique sont imaginées et réalisées, conçues par des professionnels qu'on appelle des créatures designers, qui sont des plasticiens, des sculpteurs, des dessinateurs, qui ont souvent un background d'anatomiste ou de zoologue. En fait, ce sont des artistes souvent naturalistes qui vont s'intéresser à la biomécanique, aux possibilités d'articulation des membres ou des ossements ou des coquilles externes quand il s'agit d'arthropodes ou équivalents, on va dire. Donc ils vont s'intéresser aussi à ce qui est faisable en termes de plausibilité de mouvement, en plus de l'adéquation dans les écosystèmes. Alors pour revenir à Avatar, il y a une petite signature morphologique qui est assez classique finalement dans les mythologies, c'est qu'on rajoute une paire de pattes et puis ça fait toujours exotique. Alors ça dépend un petit peu des avis, hein. C'est la composition chimérique classique, vous prenez certaines parties du corps que vous assemblez et puis vous vendez ça pour de l'exotisme. Alors on ne peut pas non plus faire dans le monde réel n'importe quoi, surtout quand on est constitué de vertèbres et de membres, des bras et des jambes comme vous et moi. L'ajout d'une paire de membres supplémentaires implique beaucoup de contraintes en ce qui concerne ce qu'on appelle la morphogénèse, c'est-à-dire la construction des organismes. C'est plus faisable quand on est insecte ou arthropode en général que quand on est vertébré tétrapode. Donc là encore, il y a des petites contraintes. Bon, voilà.
Alors Fred Blanchard, ça répond à quelles contraintes vos créatures?
La seule contrainte, c'est qu'il faut qu'elles aient l'air le plus cool possible à l'image. Et pour rebondir sur ce que tu disais, c'est vrai que dans le cas d'Avatar, il se penche sur la morphologie possible de ce type de créature, mais ils ont surtout aussi beaucoup d'albums et de bouquins qui sont parus dans les années 70-80. Je pense notamment pour Avatar au livre d'illustration de Roger Dean, qui a fait à l'époque beaucoup d'illustrations pour des groupes des super groupes d'Europe comme Yes, qui font beaucoup rire tout le monde maintenant, mais qui à l'époque proposait des visuels de couverture avec des rochers volants, avec des arbres et puis des espèces de dragons multicolores comme on a pu les voir toutes les deux minutes dans Avatar. Donc moi, ça, au-delà des possibilités morphologiques, ce qui m'énerve beaucoup dans ces cas-là, c'est que oui, ils travaillent là-dessus, mais à la base, ils vont chercher des idées qui ont déjà été prémâchées par des gens qui évoluent depuis 20 ou 30 ans dans des niveaux de compétences vraiment annexes et beaucoup moins reconnus, comme la bande dessinée ou l'illustration de science-fiction. Parce qu'on avait Chris Foss l'année dernière, on a Manchu cette année, on a des superbes expositions, surtout celle de Manchu, mais c'est vraiment le haut de l'iceberg. C'est vraiment des gens qui sont reconnus pour ce qu'ils font au fil du temps. Mais il y a un puits sans fond de création dans lequel les créateurs designers peuvent aller puiser. Et pour rebondir sur ce que vous me demandiez, oui, pour moi, je pense que effectivement, suivant les contraintes techniques et de temps qu'on peut avoir sur des films ou des bandes dessinées, on peut se pencher sur ce genre de problèmes de morphologie, d'évolution dans le milieu. On sera forcément tributaire de formes de vie qu'on connaît plus ou moins, parce que même quand on cherche à s'en affranchir, on a tout bêtement des références, on a une réalité qui nous entoure dont on ne peut pas clairement s'affranchir. Même dans le cas où on va essayer de recréer des dinosaures, il y a 10 ans, on savait quasiment pas qu'ils avaient des plumes. On pensait que c'était vraiment épisodique. Alors que maintenant, ça a vraiment infusé quand même pas mal ce domaine de recherche-là. Donc j'aurais tendance à dire qu'in fine, dans ce qui est du domaine de l'image, il faut aussi que les créatures aient l'air le plus cool possible, qu'elles soient méchantes ou gentilles. Il faut que le spectateur puisse entrer en empathie plus ou moins avec elles suivant le rôle qu'elles vont jouer à l'écran. Mais in fine, ça va vraiment être la forme. Le design va céder la place vraiment à l'apparence. À l'apparence, aux couleurs, à la façon dont elle va interagir, au mouvement qu'elle peut proposer dans le cas d'un film. Ce sera vraiment... en tout cas en termes d'image, ce qui restera au final.
Alors, vous parliez à l'instant de Manchu, et effectivement, en allant voir Manchu, j'ai vu des créatures imaginées à l'origine par Laurent Genefort, et sur lesquelles je voulais justement vous interroger. Le E.T., par exemple, c'est une des créatures d'Alien Mode d'Emploi, hein. Où là on a un monde, on reste sur Terre et les créatures de la galaxie arrivent sur Terre par de mystérieuses bouches qui s'ouvrent sur la Terre. Et là on a toute une flopée, alors là le bestiaire est très large, de créatures qui débarquent par là. Et je voulais vous demander quelle était de nous décrire quelques-unes de ces créatures. Alors du coup, le E.T. par exemple, vous allez pouvoir le voir dessiné par Manchu. Peut-être vous pouvez nous en prendre une ou deux autres.
C'est un bon exemple de ce que je fais pas d'habitude dans mes autres bouquins. C'est-à-dire que j'ai laissé un peu de côté mes exigences réalistes, ou réalistes avec des gros guillemets, mais en tout cas, je me suis pas posé la question dans Point Chaud de l'aspect l'aspect biochimique, de l'aspect de leur évolution, et donc, je les ai balancés sur Terre entre guillemets, et donc ils sont plus artistiques pour le coup, et plus dans l'apparence que ce que j'ai l'habitude de faire dans mes autres romans. Donc on peut, il y a plein de façons de créer un alien. Il y a vraiment plein de façons de créer un alien. Des fois c'est un bête. Des fois, ça peut être un mot valise qui nous vient comme ça. Dans la SF, il y a une des plus anciennes créations, c'est les insectes dom-dom, donc des sortes d'insectes qui sifflent comme des balles et qui peuvent vous transpercer. Si, d'un point de vue purement scientifique, c'est très très peu probable. Quand on fait les calculs de dépenses énergétiques pour arriver à une vitesse par rapport à la masse de l'insecte, c'est quasiment impossible en fait. Mais c'est cool, comme ce que tu disais, c'est cool. On peut avoir en littérature, ce qu'on peut pas avoir dans l'image, c'est on peut avoir du cool, pas dans le look, mais dans la fonction. En fait, c'est ça ce que rajoute, je dirais, la littérature. Mais ça impose de laisser tomber un certain réalisme. Donc après, voilà, on place le curseur du réalisme, en fonction de ce qu'on veut faire dans son œuvre, en fait. Et dans Point Chaud, les E.T., ce sont des sortes de rennes. C'est un peu des aliens qui sont l'équivalent des rennes, donc des aliens polaires qui se baladent sur la banquise. L'unique, je les ai créés parce que j'avais trouvé une espèce de... Parce que quand ils sont approchés par un des hommes, il y a un contact. Et il passe sa main dans la fourrure et il trouve que ça ressemble à du lait, à des filaments de lait. Je voulais faire ressentir cette espèce de contact qui est profondément alien, pour le coup. C'est-à-dire, c'est tout ce qu'ils trouvent comme analogie, c'est « Ah, on dirait du lait, des filaments de lait. » Voilà. Et des fois, ça tient à ça, en fait. Voilà, la création d'une créature, des fois, ça tient à un petit truc comme ça. Alors, des fois, ça rate. Hein. Des fois, on arrive à un truc grotesque. Et puis, des fois, ça, voilà. Et puis, on laisse aussi la part du rêve au lecteur. Donc, on peut, je sais pas, dans un de mes autres bouquins, j'avais imaginé des oiseaux béliers. Donc, je dis pas ce que, enfin, je rentre pas plus dans le détail. Je crois qu'il est simplement mentionné à un moment, mais et Alors, si le lecteur n'a pas d'imagination, il va imaginer une sorte de bélier avec avec des ailes, tu vois. Et le lecteur un peu plus imaginatif, il va imaginer un oiseau avec un crâne blindé qui est capable d'enfoncer le blindage d'un véhicule et qui va mettre en danger les occupants. Après, voilà, c'est chacun fait aussi sa sauce. Quand Manchu a illustré les Hittites, moi, je ne les voyais pas comme ça. Mais voilà, c'est ça la littérature. C'est chacun se fait sa... Et sa vision fonctionne très bien. Donc voilà, c'est ça aussi la magie de la littérature quand on crée des trucs. Mais même si des fois l'illustration, je vais m'arrêter là, même si des fois l'illustration impose aussi une vision, elle fixe une vision. Oui. La première illustration des vers de sable sur la couverture de Analogue, la revue Analogue en 65, je crois, c'est on voit ça a imposé la vision définitive du vers des sables parce qu'elle était absolument magnifique.
C'est marrant, si je peux rebondir sur ce que dit Laurent, quand tu parles vraiment d'essayer de véhiculer une émotion par le texte pour essayer d'appréhender de manière un peu plus physique la créature que tu as imaginée, même si tu t'es affranchi de certaines règles de la réalité pour la rendre paradoxalement plus plausible, c'est marrant parce que ça me faisait penser au travail de Wayne Barlow, qui est un illustrateur américain à la base, dont les parents étaient ornithologues, je pense. Et à un moment donné, il est parti sur deux, trois bouquins d'illustration, je ne me souviens plus des titres, mais où il a décrit de A à Z la faune et la flore d'une planète complètement extraterrestre. Donc il est parti vraiment de physicalité propre parfois aux mammifères. Effectivement, il leur a pas rajouté 18 paires de pattes, mais ils avaient des gros sacs pour sur les côtés pour filtrer du mercure, je ne sais pas trop quoi, il n'y avait pas d'yeux. Et pour nous rendre ces animaux, pour les rendre les plus tangibles possibles, il disposait pas trop de mots comme toi, mais il a cherché l'émotion au travers des lumières qu'il a insufflé dans ses images. Et pour le coup, il s'est vraiment penché sur l'illustration américaine du début du XXe siècle, qui elle-même était issue des peintres pompiers, ce qu'on appelle pompiers, mais que moi j'appelle plutôt académique, du XIXe, où on est même parfois allé vers le romantisme avec dans certains de ces images, avec des soleils couchants, des lumières irisées, de ce genre de choses-là. Et du coup, même si on se trouve sur une planète étrangère, je pense que le processus est le même que pour les petits trucs d'écriture dont tu parlais tout à l'heure. On se raccroche quand même à une certaine réalité qui peut nous toucher, mais pas au niveau de l'émotion qu'on peut avoir à certains moments sur un coucher de soleil ou sur tout bêtement un arc-en-ciel ou un beau nuage dans le ciel. Il s'est vraiment raccroché là-dessus de la même façon que tu t'es raccroché à une description ou à quelques mots utilisés même à contre-emploi pour un peu bousculer le lecteur dans la perception qu'il pouvait avoir de ta créature. Donc c'est assez intéressant de voir que malgré les outils dont on peut disposer qui sont souvent très différents, on arrive quand même, si on a les mêmes buts, à arriver quand même par moment à susciter le même genre d'empathie avec ce genre de créature, ce genre de chimère.
Sébastien.
Oui, j'enfonce juste le clou. En fait, des fois, il suffit de prendre un organisme tout à fait réel comme une méduse et de la déplacer de son contexte aquatique en la faisant volante. Et là, vous retrouvez une émotion qui évoque une créature imaginaire. Alors que c'est une base de méduse, tout simplement. Il n'y a pas forcément pour la création d'espèces fantastiques la combinaison de type chimérique où on rajoute des paires de pattes, des paires de cornes, des paires de ce que vous voulez. Il y a aussi juste un déplacement du contexte écologique de l'espèce, quasi réel, qui vous fait prendre une dimension nouvelle et vous emmène dans un voyage zoologique ou morphologique complètement nouveau. Alors, il y a ça aussi et il y a la taille. Si vous voulez faire des monstres, vous regardez les bestioles infiniment petites de la biodiversité terrienne, terrestre ou aquatique, et puis vous augmentez les tailles. Et là, vous êtes dans la science-fiction.
Alors, il y a aussi, j'allais dire, et Laurent Genefort en a parlé, l'interaction de cette créature avec les héros ou les humains ou le lecteur qui va les découvrir. Et je pense que dans l'opéra de Chaya, on se retrouve vraiment dans ce cas de figure où Sylvie Lainé, vous avez complètement imaginé une planète assez délirante. Mais l'intérêt de cette planète, il apparaît à partir du moment où l'héroïne interagit avec cette planète et avec ses créatures.
Oui, il y a l'aspect rencontre avec les humains. Bon, c'est vrai que la question de l'échelle, par exemple, devient importante à ce moment-là. Mais j'aimerais bien revenir un peu sur l'aspect visuel. Quand on essaie de décrire des créatures exotiques et donc de faire du design, et quand on est comme moi, je ne sais pas pour Laurent si c'est le cas, mais absolument incapable de dessiner quoi que ce soit et
oui,
ayant
c'est mon
une
cas.
Très mauvaise capacité visuelle à fabriquer des images... Donc on arrive à inventer des choses que l'on serait incapable de peindre. Alors d'abord, c'est vrai que c'est un bonheur total de travailler avec un illustrateur. Moi, j'ai la chance d'avoir Gilles Francescano qui fait mes couvertures et à chaque fois découvrir ce qu'il a fait avec mes mots, la manière dont il les a traduits en images. Il est là. C'est un bonheur à chaque fois de découvrir... La manière dont il a injecté l'émotion que je ressentais, les couleurs et dont il les réinterprète. Et je voulais dire aussi, parce que pour moi ça a été une de mes grandes expériences personnelles, que étant frustrée de ne pas savoir dessiner, j'ai quand même découvert un jeu vidéo avec lequel j'ai passé des heures de bonheur à designer des créatures extraterrestres. C'est un jeu qui s'appelle Spore. C'est les gens qui ont fait Civilization. C'est Electronic Arts, non, je me rappelle plus. Bref, c'est pas un jeu très récent. Il y en a peut-être qui connaissent ici. Il y a une des phases du jeu au cours de laquelle on fait du design de créatures. C'est un outil assez génial parce que, bon, il y a des éléments de base variables. On peut mettre des pattes, on peut mettre des gueules, on peut mettre des jambes, on peut travailler l'ossature, la colonne vertébrale. Moi, j'ai adoré jouer avec ça. J'ai fait plein d'expériences. Il y en a sûrement d'autres qui l'ont fait. Et par exemple, il y a un truc très rigolo. C'est qu'on peut mettre autant de pattes qu'on veut, mais à l'extrême, on peut choisir de ne mettre qu'une patte. Il suffit d'utiliser l'axe de symétrie, qui est une des contraintes dans la conception, et de mettre des trucs au milieu. Et une créature qui n'a qu'une patte se déplace très bien. Elle fait boing, boing, boing. C'est Zébulon, en fait, dans le manège enchanté. Et on peut faire des expériences comme ça, de toutes sortes. Et les designers du jeu ont été très intelligents au sens où cette créature se déplace et trouve son équilibre du point de vue du centre de gravité de manière relativement cohérente. Je ne sais pas si d'autres que moi ont eu l'idée de s'en servir pour imaginer des créatures, mais c'est un bel outil. Mais alors du coup, une des choses que j'ai trouvées très contraignantes, c'est cet axe de symétrie permanente. J'ai joué aussi à mettre la gueule derrière, par exemple. Et pas vers l'avant. Mais ça marche pas bien parce que ça devient très très difficile de se nourrir quand on peut pas marcher à reculons. Je vous dis pas les acrobaties qu'il faut faire à sa créature lorsqu'on lui met la gueule dans le dos ou à l'arrière. Mais moi j'adore ce genre d'outil qui permet de jouer avec des images. Alors j'ai pas du tout répondu à ta question, mais le design de créature, le travailler avec des mots, c'est un petit peu frustrant quand même pour nous. On a besoin aussi d'images, même si on ne sait pas les fabriquer nous-mêmes.
Et alors, maintenant, est-ce que vous pouvez répondre à ma question?
Oui.
À savoir,
L'interaction avec ces
créatures, je trouve que vous êtes allé loin dans l'imaginaire, du coup, d'un écosystème qui évolue, en fait... très rapidement, en se nourrissant de l'ADN de son visiteur ou de sa visiteuse. Et du coup, il y a une espèce de... C'est une espèce de planète empathique qui fait en sorte que sa visiteuse se sente bien pour qu'elle libère encore plus de son ADN. Et ça a l'air d'être un monde complètement idyllique pour qu'elle se sente bien. Mais alors, moi, personnellement, j'ai eu la frousse du début jusqu'à la fin. Vous pouvez expliquer ça ?
Alors, j'ai effectivement imaginé une planète qui a besoin d'un apport extérieur génétique pour son cycle de vie et qui a besoin de transformations permanentes, que ce soit du point de vue des plantes, que ce soit les animaux ou même les créatures supérieures qui, chacune à leur niveau, ont des manières d'évoluer plus ou moins sophistiquées, qui vont plus ou moins loin. C'est donc des êtres qui se transforment physiquement quand des extraterrestres viennent leur rendre visite, et en l'occurrence, c'est des humains qui viennent leur rendre visite. Sur la planète, il y a des tas de créatures qui sont... on n'identifie pas très facilement la notion d'espèce, par exemple, parce que chaque individu, selon les rencontres qu'il aura faites, pourra avoir évolué un peu différemment. À un moment donné, mon héroïne se retrouve toute seule au milieu d'une forêt et elle s'aperçoit qu'elle est incapable de dire si deux arbres qui sont côte à côte font partie de la même espèce ou pas, parce que chaque individu devient subtilement différent selon son expérience de vie, sauf ceux qui vont jusqu'à la phase ultime de l'imprégnation totale par une espèce extraterrestre qui les fige dans un état qui devient irréversible. Ce qui était intéressant là, c'était moins la dimension visuelle dont on parlait tout à l'heure que d'essayer d'imaginer un cycle biologique complexe, aussi crédible que possible, mais avec des conséquences. La biologie influe sur, pour une espèce intelligente, j'en suis convaincue, la biologie influe sur l'éthique, sur les jugements de valeur, sur la représentation qu'on se fait du monde, sur ce qu'on juge bien, ce qu'on juge mal. Il est évident que le fait qu'on soit une espèce sexuée où il y a deux sexes qui ont besoin de se rencontrer pour qu'on fasse des petits, ça joue beaucoup dans notre vision du monde. Hein. Donc, une espèce qui fonctionnerait différemment raisonnerait d'une autre façon, même si elle est aussi intelligente que nous ou davantage. Donc ça, littérairement, c'est intéressant à examiner comme question.
Je confirme, c'est intéressant. Jean-Sébastien, cette idée que des espèces évoluent à partir d'un matériel génétique venu d'autres espèces, c'est la réalité, c'est quoi?
Oui, ça existe. Ça existe dans la biodiversité actuelle, chez les végétaux, par exemple. Ça existe aussi chez les virus, même si on peut se poser la question si les virus sont vraiment des formes de vie au sens biologiquement strict du terme. Mais c'est ce qu'on appelle des transferts en fait génétiques, et du coup oui, ça existe, et ça peut poser des problèmes aussi dans les classifications mentales, bien sûr, dans la systématique ou dans la phylogénie, quand on essaie de savoir à quelle espèce appartient tel pied ou tel pied, je pense aux arbres bien sûr, enfin aux plantes ou aux végétaux.
Alors Jérôme Noiret, dans votre zoo cosmique, on a là aussi des interactions avec des animaux fabuleux. Le zoo cosmique, ça raconte l'histoire d'une petite fille qui a 8 ou 10 ans, mais dont le papa est assez extraordinaire. C'est un célèbre exo-vétérinaire, donc qui va rencontrer ces animaux fabuleux. Et je suis assez attachée au Barbarus. Alors, on parlait de la méduse tout à l'heure. Le Barbarus, il a une interaction avec les humains particulière.
Oui, le Barbarus. Là, je suis allé le pêcher, effectivement, sur le même principe que la méduse. Je suis allé le pêcher dans les fonds abyssaux. Hein, en fait, pour le coup, c'est ce qu'on appelle la pieuvre Dumbo, je crois. C'est une petite créature. La première fois qu'on la voit, cette petite créature, on a envie de D'ailleurs, je n'ai aucune idée de son échelle, en fait. C'est petit, hein, c'est une petite chose qu'on peut tenir dans sa main. Et ça a un air tellement, tellement malheureux, tellement mélancolique. Alors, c'est une pure projection, hein, c'est certainement une créature qui n'a aucune mélancolie en elle. Mais,
elle est peut-être très joyeuse.
Elle est peut-être très joyeuse au quotidien, mais il y a cette expression de mélancolie, de fragilité qui fait que. On a envie de la protéger, de la défendre. Et donc, cette créature, je l'ai sortie de son milieu, puisque c'est une créature qui vit visiblement dans une atmosphère gazeuse, dans un milieu gazeux et non pas dans un milieu liquide. J'ai augmenté son échelle également, puisqu'elle doit faire 2-3 mètres de haut. Et cette petite créature a la capacité de se nourrir des pulsions agressives des individus et de les purger de leurs pulsions agressives. Et par chance ou par malchance, elle est recueillie par une civilisation d'abrutis, ultra militariste, une espèce de Klingons puissance 10 000, quoi, qui construit des armadas dans le seul but de détruire d'autres mondes avec une espèce de gratuité totale. Et cette créature va réussir à les purger de toutes ces pensées agressives, négatives, et c'est une civilisation qui va devenir très cuculapraline. Donc leur grande armada va servir de jardinet. Ils vont faire pousser des plantes dessus. Ils vont se mettre à adopter une créature qui leur paraît extrêmement exotique et charmante, le caniche. Et donc leur planète va se retrouver peuplée de caniches qui font caca partout. C'est épouvantable. Et ce malheureux Babarus, au bout d'un moment, va tomber malade, va saturer de mauvaises pensées. Et donc il va avoir besoin de l'aide, effectivement, d'un brillant exo-vétérinaire pour être purgé, et il va finir par vomir, en fait, hein, tout ce magma informe de pensées négatives.
Alors sur Terre, Jean-Sébastien, ça m'a fait penser au poulpe duquel on pensait qu'il était complètement stupide parce qu'il n'a pas de cerveau. Mais finalement, on s'est rendu compte qu'il a des capacités cognitives extraordinaires. Donc, même dans la réalité, notre vision des créatures évolue et n'est pas toujours conforme à la réalité.
Oui, et d'ailleurs, on a trop souvent tendance, c'est un défaut typiquement humain, à se dire, voilà, je vais créer une espèce intelligente, et dans 90% des cas, quand on fait un éventail bibliographique sur les œuvres de science-fiction, on tombe dans l'humanoïde, alors que l'intelligence n'est pas obligatoire dans l'évolution des espèces, et notamment quand on regarde du côté des céphalopodes, dont la petite pieuvre Dumbo est inspirée. Les céphalopodes en général, la pieuvre en particulier, a une excellente mémoire. Elle est capable de résoudre des petites énigmes pour traverser par exemple un labyrinthe afin d'aller choper le crabe à un endroit précis. Elle construit aussi, on ne sait pas trop pourquoi, elle construit des trucs comme du land art aquatique, si vous voulez, des pieuvres en pile des pierres, sans aucune raison. Alors est-ce que c'est du jeu ? Hein, le jeu n'est pas non plus le propre de l'homme. Les dauphins jouent aussi très bien. Ils s'amusent à faire des espèces d'anneaux d'air, et puis ils passent dedans les uns après les autres. Enfin, ils s'éclatent. Donc, voilà, l'intelligence n'est pas forcément typiquement humanoïde, et inversement. et pour revenir à l'inspiration, en fait, du monde vivant, c'est vrai que les fonds abyssaux sont souvent des mines d'inspiration pour imaginer des espèces fantastiques. Et je dirais que c'est le cas finalement de beaucoup de milieux extrêmes qu'on arrive à peine à percevoir, et que la science permet progressivement d'explorer grâce aux progrès techniques aussi qui nous amènent dans les fonds abyssaux. Il faut savoir que la planète est composée majoritairement d'océans, et que seule une petite partie, finalement, du fond des océans, c'est l'équivalent à peu près de la région parisienne, ou allez, on va être généreux, de la France, est connue. Donc, ça laisse rêveur quant à d'autres formes de vie possibles. On pense tous, bien sûr, au Kraken. On pense tous à Abyss, par exemple, de Cameron. Et c'est peut-être pas pour rien, d'ailleurs, que dans Avatar, on retrouve cette espèce de bioluminescence en milieu terrestre, pour le Avatar 1, en tout cas. Parce que Cameron est aussi un explorateur, un fan d'océanographie, un explorateur sous-marin, et il est très imbibé, très inspiré par cette faune finalement qu'on trouve, nous, fantastique, mais qui est bien réelle et qui est au fond de la mer, quoi.
Alors, Laurent Genefort, pour ne pas faire de faux pas quand on rencontre une intelligence extraterrestre, ou peut-être terrestre si on en découvre une... on en trouve pas mal dans Alien Mode d'emploi. Vous pouvez nous en dire un, le...
Ah oui, alors, c'est créature au sens large. Alors, parce que souvent, quand on parle d'alien, quand on parle de créature, on pense plutôt aux animaux, c'est-à-dire aux extraterrestres non intelligents. Mais dès qu'on franchit un certain seuil d'intelligence, ça devient des aliens, et on les traite du coup beaucoup moins dans leur sens biologique. Enfin, l'aspect biologique devient vraiment secondaire, en fait. C'est à partir du moment où il y a de la conscience, il y a de la culture, ce qui est biologique passe vraiment au deuxième plan. Moi, je pense que si je rencontrais un alien, déjà, je fumerais pas en sa présence parce que je serais pas sûr, par exemple, qu'il exhale pas du méthane. Donc, pour éviter des malencontreux accidents, voilà, c'est le genre de truc que je ferais en premier lieu. Je me prémunirais de ce genre de choses, voilà, avant même de lui parler. Et après, je lui dirais bonjour.
Alors, je voudrais encore aborder un dernier type de créature avant peut-être de laisser la parole au public qui aura sûrement des questions. Ce sont les créatures qui n'ont pas justement de biologie, qui ne sont peut-être pas de matière organique, les créatures qui peuvent être minérales, les créatures qui peuvent être un nuage. Je pense au nuage noir de Fry Doyle, l'astronome qui avait écrit une histoire d'un nuage qui stationnait aux environs de la Terre. Alors, Laurent Genefort, vous en avez imaginé un dans Lumen, votre dernier roman. Sylvie Lenné, vous en avez imaginé un qui est du sable qui pense sur une planète. Ça, c'est quand même extraordinaire comme invention.
Alors, c'est assez marrant parce que, alors, on est dans l'histoire de la SF, on est allé vers de plus en plus de réalisme. Et donc, c'est vrai que dans les années 30 jusqu'aux années 50, 60, on pouvait trouver assez facilement les ferromagnéto de Ronnie Aîné au tout début du XXe siècle, voilà, jusqu'au nuage noir ou à la planète Solaris, qui est entièrement recouverte d'un océan pensant. Mais au fur et à mesure des découvertes et de l'avancement de la science, la SF s'est modelée avec un certain degré de réalisme. Et c'est vrai que petit à petit, on est rentré dans un cadre plus scientifique, en fait, tout simplement. Donc, alors pour l'humaine, alors l'humaine, c'est assez particulier parce que la créature en question est en réalité n'est pas une forme de vie naturelle. C'est une IA, en fait, c'est une intelligence artificielle qui a été enfermée dans une sorte de monolithe, lui-même enfoui sous une colline. Et voilà, donc on est dans une créature, dans une altérité artificielle pour le coup. Mais en revanche, il y a des petits êtres qui s'appellent les pilas, qui sont des poulpes arboricoles. Et là, je me suis inspiré justement de des formes de. Alors pour le coup, je me suis inspiré de formes de vie terrestres. Ce que j'essaie d'éviter d'une manière générale, mais là, la tentation était trop forte. C'est vrai que quand on imagine une intelligence non humaine sur Terre, on pense aux pieuvres ou aux poulpes, on pense aux dauphins, on pense aux éléphants. C'est-à-dire des créatures dont l'intelligence a été évaluée scientifiquement et qui passent certains tests.
Voilà. C'est marrant, dans ta liste, tu n'as pas cité les hommes une seule fois dans les créatures intelligentes terrestres.
C'est vrai que les humanoïdes, ils sont courants dans la SF.
Alors, ils étaient courants, justement, et plutôt dans un sci-fi, mais ils ont eu tendance à disparaître. Avec justement, les auteurs de SF, ils essaient justement de repartir de zéro et d'imaginer. En fait, une espèce, c'est quand on décrit une espèce, on est censé avoir imaginé. Alors, tout dépend du degré. On n'est pas obligé, mais tout dépend du degré de réalisme. Mais en tout cas, si on est dans un certain degré de réalisme, on imagine toute l'évolution derrière, en fait. C'est-à-dire que c'est pas un être qu'on va puiser uniquement de son imagination. C'est pas une forme, c'est pas une simple forme. C'est quelque chose qui est né de d'une évolution dans une biosphère étrangère avec des paramètres géologiques, chimiques, même astronomiques différents à la base.
Dans Un amour de sable, Sylvie Lenné, vous affranchissez complètement de l'évolution biologique.
Mais alors, en fait, j'étais en train de me demander, bon, mes êtres humains arrivent sur une planète dont la surface est recouverte de sable de différentes couleurs. La seule chose qui les intrigue, a priori, c'est pourquoi est-ce que les grains de sable de différentes couleurs ne se mélangent pas? Pourquoi est-ce qu'on a des endroits où il y a des tas de sable plutôt rose, plutôt gris, plutôt doré? Et ça n'a pas l'air de trop se mélanger, mais il n'y a rien de particulièrement mystérieux de leur point de vue. Et puis en fait, on a en même temps le récit du point de vue de Sable. Mais je ne suis pas du tout sûre que Sable soit une créature vivante et biologique. D'abord, elle est constituée de grains de sable, des vrais grains de sable normaux dont la composition est à peu près la même que celle du sable qu'on trouve ici. Simplement, c'est une créature consciente, mais je ne suis pas sûre que ce soit une créature vivante. Au sens où elle ne se nourrit pas, elle ne se reproduit pas, elle est apparemment éternelle parce que le sable a quand même une durée de vie extrêmement longue. C'est une créature consciente, c'est tout ce qu'on peut en dire de sûr. Et peut-être qu'il faut aussi qu'on réfléchisse à l'idée des conditions qui permettent à la conscience d'émerger. Les informaticiens le font. Dès qu'on parle d'IA, on se pose la question. Mais on peut se le poser aussi autrement. Moi, si je mettais le pied sur une autre planète, la première chose que je me demanderais avant de me demander si je peux allumer ma cigarette, mais dans un scaphandre, ça va peut-être pas trop le faire de toute façon. Mais bon, dans mon histoire, après le passage des êtres humains sur la planète, je vous déconseille d'y marcher pieds nus, par exemple, sur la plage. Mais plus généralement, dans des environnements très différents, comment la conscience pourrait-elle avoir émergé peut-être autrement que sous la forme de machins qui bougent, qui se déplacent, qui veulent vous manger ou qui essaient de communiquer. Mais Solaris, effectivement, c'est l'un des premiers exemples extrêmement marquants d'une forme de conscience qui n'est pas biologique. Et quand on parle de Gaïa, en parlant de la Terre, en essayant d'incarner un espèce d'anima global, transcendant, on n'est plus non plus dans une créature biologique. Donc la conscience, c'est autre chose.
Voilà, nous sommes sortis du bestiaire de l'imaginaire, donc nous pouvons vous donner la parole. Il y a une question là.
Oui, merci, bonjour. C'est pas une question, c'est juste un exemple. J'ai croisé pas mal de créatures lors de mes lectures depuis des décennies. Mais une qui m'a vraiment, vraiment impressionné, c'est les créatures de Werner Winge dans Un feu sur l'abîme, les créatures composites formées de segments. Et voilà. Sinon, dans la faune de l'espace, il y en a des très bien aussi.
Bah, y a un peu l'ancêtre de l'alien hein, dans la faune de l'espace, qui est.
Oui,
ouais, c'est à faire. Ouais.
Il y a Kildazer aussi, dont on n'a pas parlé.
Ouais, mais qui est plutôt fantastique, j'ai l'impression, pour le coup.
Semi-mécanique.
Il y a de Robert Forward aussi.
L'œuf du dragon.
L'œuf du dragon, ouais, qui est une forme de vie neutronique, qui est super intéressante. Ouais.
Bonjour, je suis un petit peu déçue parce que vous n'avez pas parlé des dragons, justement.
Les dragons.
Effectivement, qui s'y lance.
Jean-Sébastien,
Oui, les dragons, alors effectivement, ce sont des créatures classiques dans l'imaginaire. On est plus dans le médiéval fantastique ou dans l'héroïque fantasy que dans la science-fiction. Mais on peut se pencher sur, effectivement, la biologie. D'ailleurs, ça a été fait plusieurs fois, hein, la biologie ou la dragonologie, si vous voulez, c'est-à-dire essayer d'analyser comment un reptile, a priori... Alors d'abord... Il y a plusieurs types de dragons en fonction des cultures humaines. Hein. Le dragon asiatique, c'est un gentil dragon qui est plutôt serpentiforme que dragon typique comme nous, on peut l'imaginer, enfin comme on a eu dans l'imaginaire médiéval. C'est un gentil dragon qui est donc très allongé avec des petites ailes. Donc on peut se demander comment il fait finalement pour voler, mais qui a un rôle aussi sociétal, c'est-à-dire que dans la mythologie chinoise, le dragon doit descendre, il descend régulièrement en fait à la surface de la terre pour répandre les biens et les bienfaits, mais il doit remonter rapidement avant que la voûte céleste se referme, sinon il tombe pétrifié au sol. Et ce qui est intéressant, c'est que ces textes anciens chinois ont été retrouvés dans des régions très riches en squelettes de dinosaures et les vestiges des tablettes où ont été écrits ces textes. Ont été trouvés à côté en fait de grands restes de sauropodes, c'est-à-dire les grands dinosaures herbivores du Jurassique ou du Crétacé. Donc c'est intéressant de voir que finalement les dragons quelque part, et c'était le cas aussi en Europe, était un peu interprété, où c'était l'idée qu'on avait de forme géante, peut-être réelle aussi, avant d'interpréter ça en termes d'anatomie et de biologie, comme des dinosaures ou d'autres grands organismes. Je pense par exemple aux mammouths, dont les squelettes, avant le Moyen-Âge, étaient identifiés comme des géants. C'était la gigantologie, c'était une science, enfin une proto-science, si vous voulez, qui était développée, qui s'intéressait à essayer d'analyser, d'étudier ces vestiges-là à l'époque, avec les connaissances actuelles en fait de l'époque.
Donc, déjà, bonjour. On a beaucoup parlé des animaux qu'on pouvait rencontrer dans les nouveaux mondes ou qui viendraient nous voir. Alors je vais rebondir un peu sur la question du dragon en parlant de la balade de Pern. Comment vous envisagez-vous le cas où l'humanité créerait ses propres animaux avec un but final, utilitaire ou autre pour elle ?
Qui veut se lancer, Fred Blanchard?
Ah, bah ouais, allez, mission suicide, c'est pour moi. Bah, les animaux, on est en train d'en créer un, mais qui n'en est pas vraiment, parce que tout à l'heure, quand Laurent parlait de créatures immatérielles avec des amas de données qui se baladent, et je me suis dit, mais on est carrément en train de faire ça. Enfin, on se dirige vers ça parce qu'on a toutes nos données personnelles qui partent dans des clouds, on ne sait pas trop où. Et en parallèle, il y a des chercheurs qui travaillent sur l'émergence de l'intelligence artificielle, qui espère pouvoir en développer une qui serait vraiment complètement indépendante et peut-être consciente d'elle-même d'ici quelques années. Et je me disais, mais s'ils arrivent à faire ça, ça va carrément se recouper avec les créatures complètement immatérielles dont on parlait. Donc ce serait une forme de vie, je ne sais pas, animale. En tout cas, ce serait une forme de vie immatérielle qu'on aurait créée au-dessus de nous, comme ça, avec des moyens scientifiques, informatiques. Et c'est complètement paradoxal parce qu'on retomberait complètement dans le champ de ce type de créature dont on parlait tout à l'heure.
Encore une question, la dernière peut-être.
Oui, pardon, j'ai raté le début de la conférence, donc peut-être que vous avez abordé le sujet.
Bah,
la
question des chimères, en fait.
La question des chimères, à savoir donc, de ces mélanges d'animaux qui étaient très présents dans les mythologies antiques, par exemple. Est-ce que ça occupe une place dans votre œuvre, sachant qu'il me semble avoir lu il y a quelques années qu'il y avait des recherches expérimentales sur la possibilité de, justement, en termes de génétique, de mélanger des génomes d'espèces différentes pour créer des hybrides. Est-ce que ça vous évoque quelque chose ou...
voilà. Moi, ça m'évoque au moins deux nouvelles. Une nouvelle de Joël Vintrebert dans l'anthologie Rêver 2000 je sais plus combien, où des chimères ont été conçues... sont des créatures de luxe dont je ne vous dirai pas tout, mais aussi une nouvelle qui est dans l'anthologie Parchemin et Traverse, l'anthologie 42, dans laquelle il y a des ingénieurs généticiens qui fabriquent, en particulier, qui proposent à des humains de s'hybrider avec des animaux pour le plaisir, pour le jeu, avec des conséquences un peu surprenantes. Quand, par exemple, une fille décide de devenir une sirène et qu'on peut, en gros, répondre à sa demande en l'hybridant avec des créatures de type poisson, avec des conséquences bizarres.
Bien, on va s'arrêter là. Je voudrais vous signaler que les personnes qui sont là, qui sont auteurs, ont la possibilité de dédicacer leurs ouvrages en librairie immédiatement, sauf pour Sylvie qui le fera à 13h.
14h.
À 14h.
Et sauf pour moi qui déteste ça.
Ah. Et Fred Blanchard a une dispense.
Eh oui. Et je on voudrais, l'a fait soi-même.
Mauvais élève.
Et je voudrais aussi vous signaler qu'il n'y aura pas de rencontre avec François Bouc qui était prévu dans le programme. Voilà, merci, bonne journée.